Bras zéro, brassage radio. Aujourd'hui, eh ben, on est de retour de vacances. Vacances d'hiver rythmées par Noël et jour de l'an. En pleine pandémie, ça a été l'occasion pour certains et certaines de ne pas aller faire leurs obligations familiales, d'échapper à ce moment. Pour d'autres, ça a été un moment pour se retrouver, et puis ça a été aussi un moment encore étrange que cette fin d'année. Bras zéro revient là-dessus par quelques petits montages, quelques petits devoirs de vacances. On y entend ceux et celles qui fêtent pas vraiment Noël, ceux et celles qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait de l'inexistence du Père Noël et des enfants. On se pose des questions aussi, on entend une tranche de bûche, une tranche de Noël, à un moment, quelque part dans le monde, et on se pose aussi des questions sur cette drôle de période.
Tu préfères Bras zéro ou France Inter ?
Bras zéro.
Moi aussi.
Alors quand même, pour les fêtes en 2020, il s'est passé des drôles de choses. Paris-Normandie.
Couvre-feu en Normandie, un nouvel an sous haute surveillance.
Ouest de France.
Caen. Couvre-feu avant le jour de l'an, des contrôles renforcés.
Le Dauphiné libéré.
Un jour de l'an sous haute surveillance dans le Vaucluse.
La Nouvelle République.
Pas d'esprit de fête ni de recette pour les pros du réveillon.
Midi libre.
Combien peut vous coûter la soirée du réveillon si vous n'êtes pas dans les clous ?
La Tribune républicaine.
1. Les forces de l'ordre procéderont à des contrôles sur notre territoire pour le réveillon de nouvel an.
C'était pas festif l'ambiance. Alors, je sais pas si vous vous souvenez du clip de cette chanson. Jimmy Somerville, les communards. Don't leave me this way. Bon, en vrai, je sais pas trop ce que ça raconte. Mais le clip, en fait, il commence avec une sorte de militaire inquisiteur, genre Pinochet ou KGB, qui ouvre un espèce de classeur où on voit ministère de la culture, en gros, là. Et avec un gros tampon rouge, il approuve le concert des communards. Mais en fait, c'est un piège. C'est pour mieux arrêter la bande de punk et de personnes louches, certainement sexuelles, qui fréquentent le concert. Concert qui se déroule dans les hangars désaffectés, un peu genre concert sauvage, quoi. Et il y a même un infiltré. Du coup, en plein kiff, bim, descente de Condé et tout le monde s'éparpille en courant partout. Et voilà, c'était l'ambiance derrière le rideau de fer dans les années 80. Enfin, c'est ce qu'on en voyait depuis les médias mainstream à l'ouest, comme on disait. Et c'était un peu la différence absolue entre les deux camps. D'un côté, une espèce d'égalité ternée grise, et de l'autre, la liberté de parole, de faire la fête, d'être punk et tout, quoi. Bon, c'était déjà le pipeau à l'époque, on est d'accord, le camp de la liberté avait son lot de répression et tout. Mais là, en voyant tous ces trucs autour de la Saint-Sylvestre, j'ai vachement pensé à ça. De comment c'est devenu normal de pointer du doigt une jeunesse inconsciente, responsable de nos pires malheurs. Déjà, cet été, on avait eu des images de fêtes un peu décadentes et un gros discours de culpabilisation. On nous a offert Noël, parce que quand même, la famille, c'est important, la famille, et puis dans une république laïque, il faudrait pas oublier le petit Jésus. Mais là, il y a eu lâchage en gros. Sur M6, il y a carrément une équipe qui s'est incrustée dans une soirée clandestine, disent-ils, et ça aurait fait scandale sur les réseaux sociaux. Des images qui, par les temps qui courent, ont ulcéré les internautes. Waouh, ulcéré. Ils n'ont pas encore attrapé le Covid, qu'ils ont déjà fait un ulcère. Pas à cause de la vague de licenciements qui gonfle, pas à cause des inégalités qui se creusent, non, non, non. Pour ces images de gens qui font la fête, en plus prennent de la cocaïne. Notre journal local, La Détresse du Midi, n'en est pas en reste. Il y a carrément un journaliste qui s'est incrusté dans une fête où une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes se sont retrouvés le temps d'une soirée, malgré les recommandations du gouvernement et les risques de contamination. Non mais le gars, il s'incruste à la fête. Et il fait un article avec une photo et tout, le chien. J'espère qu'il avait payé sa picole quand même. Le bilan sécuritaire du réveillon, c'est 45 400 contrôles, 6 650 prunes pour non-respect de couvre-feu et 662 interpellations. Bon, à 4 près, on était à 666, hein. Louche. Bon, 407 personnes en garde à vue. Oh, ça fait mal la gueule de bois. Et puis le pompon, c'est la rêve partie à Luron, près de Rennes. Alors là, Plus de 2000 personnes déterminées qui ont même fait reculer les gendarmes, cramant une de leurs camionnettes au passage. C'est carrément l'autorité de l'État qui a été piétinée. Si, si, c'est écrit dans le Figaro. Et l'État n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Alors il mord bien fort. Un gars fait office de coupable et le parquet de Rennes a ouvert une enquête pour, attention, organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical, violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation d'un bien d'autrui en réunion ou encore travail dissimulé, tenue illicite d'un débit de boisson et infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment la facilitation de l'usage. Boum! L'action de l'État dans sa dimension successive de maintien de l'ordre, de police judiciaire a permis de mettre fin sans violence à une fête illicite troublant fortement l'ordre public et de conduire une enquête judiciaire propre à éviter toute impunité. A souligné le procureur estimant que la véritable autorité de l'État réside dans cet équilibre exigeant. Wow. 10 ans. 10 ans sont encourus. Et il y a quelques jours, d'autres personnes ont été arrêtées dans la même affaire. Voilà où on en est. Les organisatrices et organisateurs de cette fête ont pourtant de très bonnes raisons d'avoir fait tout ça. Et elles le disent dans un communiqué. La détermination dont a fait preuve le public pour accéder à la fête n'est que la manifestation d'un désir profond de lâcher prise. Ces espaces de liberté sont inhérents à nos sociétés depuis la nuit des temps. C'est un besoin inaliénable pour nombre d'entre nous. Pourtant, la jeunesse, la fête et la culture sont montrées du doigt tous les jours. Nous serions les bourreaux irresponsables de nos aînés et des plus fragiles, grands vecteurs de la propagation du virus. Face à cette culpabilisation incessante, la jeunesse se retrouve réduite à se voir qu'un obscur brouillard comme seule perspective. Et après le Covid, le climat. Et de préciser, quant à la fête, en elle-même, que dire ? Si ce n'est que ce fut une belle bringue, des couleurs, des sourires, de l'amour, du partage, de la musique, des lumières, une ardeur commune de vivre. Mais on vous le souhaite. Et sans doute que très peu étaient en âge d'avoir vu ce clip des communards dans les années 80, mais c'est l'image qui m'est venue tout de suite. Et vous avez bien raison, il faut bien que corps exulte et que chacune prenne ses responsabilités comme ils l'entendent. Parce qu'au même moment, à l'autre bout de l'Europe, il y avait plus de 500 réfugiés du camp de l'IPA entassés au mépris de toutes les règles sanitaires qui entamaient une grève de la faim dans l'indifférence générale pour demander de l'aide à l'Union européenne qui les laisse crever. Alors vous repasserez pour les leçons de morale et de responsabilité.
Thank you. Monaheim bin ich jung geblieben.
Noël. Qu'est-ce que je peux bien raconter sur Noël ? L'angoisse du repas de famille, rien à signaler de mon côté. Chez moi, c'est pas à cet endroit-là que ça se joue. La fête commerciale, ode à la consommation, ok, rien de nouveau sous les nuages laiteux. Bien sûr, ça me gave, mais bon, si avec ça. Et Noël en temps de Covid, ouais non, ça m'inspire pas non plus. De toute façon, pour moi, Noël, ça a toujours été la fête des autres, la fête des goy. Nous, on fêtait pas Noël, ou alors vite fait, une bouffe chez les potes aux parents, juifs et argentins la plupart du temps. À la maison, pas de sapin, et le seul gros barbu auquel on croyait, c'était Karl Marx. J'ai un souvenir de ma mère qui débarque à l'école pour se fâcher avec la maîtresse parce qu'elle nous avait filé un poème qui parlait du petit Jésus. Je sais pas ce que je saisissais de tout ça, mais j'étais assez fière d'elle. Sur Noël, c'est un autre poème qui me revient. C'est pas un poème en fait, mais un extrait de texte. Mais bon, on le récitait par cœur et on avait fait un dessin sur la page blanche d'à côté, sur le cahier de poésie. Je me rappelle encore de la grande table avec les gros poulets que j'avais dessinés. Les trois messes basses, d'Alphonse Daudet. Deux dindes truffées, Garrigou ? Oui, mon révérend. Deux dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes. Donne-moi vite mon surplis, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gueulinottes, des coques de bruyère. La plume en volait partout. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des grosses comment, les truites, Garrigou ? Grosses comme ça, mon révérend. Énormes. Oh, Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes ? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtout ciselés, les fleurs, les candélabres, jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, allons, mon enfant. Gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Moi, je trouvais ça assez fun. Les curés, les marquis, c'était exotique. C'était la première fois que j'entendais parler de la messe de minuit, ça avait l'air marrant. Et la grande tablée d'Astérix, ça me parlait pas mal. En fait, je crois que j'avais pas compris jusque-là que c'était une fête catho. Et en relisant, je me dis que c'est à cette époque sans doute que j'ai entendu parler des sept péchés capitaux. Un texte contre la gourmandise qui éveillait en moi l'ardent désir du poulet rôti. Les sept péchés capitaux, c'est fou ce truc. L'avarice à la limite. L'envie, l'orgueil, ok, mais les autres. Paresse, gourmandise, luxure, colère. Que des vertus capitales que je nous souhaite de pratiquer en 2021. Et puis, je vous laisse sous mon sapin à huit branches, une petite chanson chantée par une dame pas comme les autres, qui est partie il n'y a pas longtemps, reprise d'un autre monsieur, qui lui non plus n'était pas très catholique.
Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains sur tes hanches. Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle vie dorée sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ta grange, il a mis les mains sur tes hanches. Toi qui n'avais rien sur le dos, toi qui n'avais rien sur le dos, il t'a couverte de manteau, il t'a couverte de manteau, il t'a vêtu comme un dimanche, tu n'auras soit froide si tôt. Il a mis l'hermine à ta manche, il a mis les mains sur tes hanches. Tous les camés, tous les émaux, tous les camés, tous les émaux, il les fit pendre à tes rameaux, il les fit pendre à tes rameaux, il fit rouler en avalanche perles et rubis dans tes sabots. Il a mis de l'or à ta branche, il a mis les mains sur tes hanches. Tire la belle, tire le rideau, tire la belle, tire le rideau, sur tes misères de tantôt, sur tes misères de tantôt. Et qu'au dehors il pleuve, il vente, le mauvais temps n'est plus ton lot, le joli temps des coups des franches, on a mis les mains sur tes hanches.
Monsieur Pierre,
oui.
Je voudrais vous demander quelque chose.
Qu'est-ce qu'il y a encore, Josette ?
Je voudrais garder les coquilles d'huîtres. C'est pour faire des cendriers.
Oh, mais bien sûr, Josette. Je vous les donne. Mais tiens, tenez, Josette. C'est mon cadeau de Noël.
Oh, c'est vrai, Monsieur Pierre. Pas des dents, ça fait drôlement plaisir.
Tenez, Josette, c'est rien. Quand on peut faire plaisir, et puis ça débarrasse.
On se fait la bise.
Allez.
Brasero. Que du talent.
Encore mieux que de la boxe.
L'émission qui dépote.
Brasero.
C'est encore mieux que ne rien faire un lundi soir.
C'est encore mieux qu'un uppercut dans la gueule du MEDEF.
De 19h à 20h. Brasero.
Brasero.
Je rentre un peu tard.
Salut maman, super, t'es là.
Bien sûr que je suis là, je manquerai ça pour rien au monde. Oh, Blake, chérie, ta déco est superbe, t'as bien travaillé.
Merci maman, Emma m'a donné un coup de main.
Non, j'ai rien fait.
C'est vrai ? C'est peut-être qu'elle se réserve pour notre grande cérémonie d'accrochage des chaussettes de Noël.
Pitié, il y a déjà des paillettes plein la maison. Vous êtes devenue dingue. Dingue au sens cool ?
Non, pas du tout.
Maman, j'ai sorti la photo de papa et toi si t'es d'accord.
Bien sûr, chérie. Et t'as bien fait de la poser là. C'était magique cette année-là, tu te souviens, Emma ?
Et tu vas où, ma puce ?
Je monte.
Quoi ? Mais on est loin d'avoir terminé. J'ai acheté de la guimauve. Ça vous dirait qu'on mette de la musique et que je nous fasse chauffer des chocolats chauds ?
Noël, ça n'a rien de magique. C'est des décos en plastique qu'on ressort tous les ans.
Ton père adorait les fêtes de Noël et c'est pour ça que... Écoute, c'est important de maintenir les traditions comme celle-là pour qu'ils restent vivants dans nos souvenirs.
Bah ça marche pas.
Emma...
On fait la même chose tous les ans. On en met partout des décos et on fait comme si tout allait bien, comme si papa était encore là. Mais il est parti. Et c'est pas en accrochant des trucs en plastique qu'on va le faire revenir. Hé ! Moi, j'adore les décos de Noël.
Parce que tu te souviens pas de lui.
Hé, ça suffit maintenant. Je fais de mon mieux pour... Emma, Marie, reviens ici immédiatement.
Maman ? Tu veux bien que j'écrive ma lettre au Père Noël ?
Oui, bien sûr, chérie. C'est une très bonne idée.
Cette année, j'ai passé Noël en famille, en Bretagne. C'est pas tous les ans, mais ça arrive quand même régulièrement. Et ça fait des nœuds dans ma tête. Bon, j'ai la chance que ça puisse faire des nœuds. Je pourrais ne pas avoir le choix. Je suis bien convaincue que la famille ne doit pas être le noyau central de toute l'organisation sociale. Je me dis aussi que dans mon quotidien, je me bats pour qu'on s'organise collectivement, en prenant soin les unes des autres, en prenant soin des vieux, des vieilles, en prenant en compte les besoins spécifiques des enfants. Je trouve ça logique de prendre soin, entre autres, de mon père, de ses voisins, voisines qui se retrouvent à vieillir seuls, etc. J'ai pas trouvé la lotion des mélantes magiques, mais c'est peut-être parce qu'elle est planquée au fond de la hotte du Père Noël. Bref, quand on est remonté en voiture le 23 décembre, lors d'une pause, un automobiliste a demandé à ma fille de 1 an et demi « Alors, tu vas voir le Père Noël ?» Bon, elle a pas trop pigé ce que ce type lui demandait, et nous, on s'est regardés en réalisant qu'on lui avait pas du tout parlé de tout ça. Sauf qu'après, ma nièce de 5 ans m'a tout raconté des moyens de locomotion de ce gros gars en rouge. Et je me suis demandé ce que j'allais dire à ma fille dans les années à venir à propos de toute cette mascarade. Du coup, j'ai commencé à mener l'enquête. Et puis ça a dérivé vers la question de ce qu'on fait croire ou pas aux enfants qui nous entourent. Et au-delà de la légende de Noël, comment on transmet nos croyances, ou comment on fait en sorte que les petits et petites qui nous entourent puissent se construire leurs propres croyances, décider de ce à quoi elles veulent croire ou pas croire. Je crois surtout que les récits qu'on fait aux enfants qui nous entourent ne constituent qu'une infime part de ce que eux vont se construire par tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils vont rencontrer, tous les récits qu'ils vont entendre. Donc en vrac, je vous livre ici quelques réflexions et pas trop de réponses. Sauf quand il s'agit de savoir ce qu'on devient quand on est mort.
Et du coup, moi, je me posais la question de faut-il faire croire au Père Noël aux enfants ?
Je dirais que c'est un peu ce qu'on me disait tout à l'heure, mais qu'à la fois, c'est chouette de participer à un mythe collectif et de faire un moment comme ça, un peu où tout le monde peut se faire croire à de la magie ou des choses comme ça. Et en même temps, moi, je sens que j'ai du mal à... j'ai du mal à faire croire à des enfants que le cadeau, il vient du Père Noël. Et que j'ai envie de dire, bah non, c'est moi qui l'ai offert, j'ai choisi pour telle raison. Et j'ai envie de le partager avec toi. Et du coup, en tout cas, de ce que c'est devenu, je sais pas comment c'était il y a quelques années, mais de la société de consommation à laquelle ça participe et tout, je me dis, est-ce que vraiment on fait croire à tout ça, en fait, aussi ?
Ça fait plaisir sur le coup. Après, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il n'existe pas et on continue à faire semblant de croire qu'il existe. Et puis après, bah, ça veut dire qu'on est grand, donc c'est pas grave.
Est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce qui se passe ce soir et qu'est-ce qui va se passer cette nuit un peu ?
Il va avoir le Père Noël.
D'accord. Et comment il dépose les cadeaux ? Comment ça se passe ?
En fait, il passe par la cheminée. Très doucement, puis après il sort de la cheminée et il met sur sous le sapin.
Et qui est-ce qui te l'a raconté cette histoire du Père Noël qui vient pendant la nuit ? Comment tu sais qu'il se passe ça ?
Puisque je le sais.
Est-ce que tu te souviens qui est-ce qui... comment tu as su qu'il y avait ce Père Noël ?
Puisque en fait, c'est vrai, je l'ai su tout seul.
Tu l'as su tout seul ?
Oui.
D'accord. Peut-être en lisant des histoires ou...
En lisant des histoires !
En même temps, peut-être ça apprend aux enfants que les adultes mentent. Ça leur donne des idées, mais peut-être ils apprennent déjà bien avant l'histoire du Père Noël. Qu'est-ce que c'est que le mensonge ? C'est pas mal.
C'est bizarre comme question. Moi, j'aime bien croire au Père Noël. Enfin, je trouve que c'est bien de faire croire. En plus, déjà, faire croire, c'est une drôle de façon de dire. Mais raconter des histoires, moi, j'aime bien. Alors après, on sait que c'est lourd de tradition et de conséquences et de... Bon, OK. Mais je trouve que c'est pas mal, des fois. Ouais, ça peut être rigolo. Ça dépend des fois, ça dépend du contexte. Mais moi, j'ai des souvenirs merveilleux. De Père Noël. Moi, je trouve que c'est un imaginaire qui m'a nourri gamine. Et moi, j'étais ravie de croire au Père Noël, enfin, de croire, ou de. Je sais pas, de m'inventer cette histoire, les soirs de Noël quand j'étais gamine.
Moi, je crois au Père Noël parce que c'est pas quelqu'un d'autre que lui qui peut déposer les cadeaux. Je sais que les reines, ils volent parce qu'ils ont de la poudre magique.
Et c'est une histoire que qui est-ce qui t'a raconté cette histoire-là?
Je sais moi-même, mais c'est quelqu'un de ma classe qui m'a dit que j'avais de la poudre magique qui faisait voler les reines.
Moi, je pense que les enfants, ils ont pas aucun problème avec les trucs qui nous paraissent pas cohérents, pas réalistes, tout ça. Parce que ils s'accommodent de toutes les incohérences, en fait.
Oui, moi j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai pas été traumatisée par cette histoire de Père Noël. J'ai dû faire croire à ma mère que je croyais encore au Père Noël. J'ai fait semblant que j'y croyais encore parce que j'avais l'impression que c'était mal de dire ben non, en fait, j'ai compris, j'y crois plus.
Je me souviens de me dire tiens, on entourloupe quoi, il y a un truc qui est pas net dans cette histoire. Parce que j'écrivais des lettres au Père Noël avec ma liste de cadeaux et je voyais bien que c'était mon père qui mangeait le chocolat que je mettais dans la lettre. Donc je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas au Père Noël, quoi, tout à fait.
Ouais, alors moi, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, je sais pas trop. Et j'avais clairement des questions embarrassantes par rapport au Père Noël, parce que pour moi, concrètement, ça pouvait pas marcher. Et je disais, bah, comment il fait pour transporter tous ces cadeaux dans sa hotte? C'est clairement pas possible, il y a beaucoup trop de monde, enfin, il y a beaucoup trop de cadeaux. Ça marchait pas, quoi. Mon esprit rationnel se butait complètement au mythe du Père Noël, donc j'ai complètement démystifié le truc tout seul en faisant chier mes parents jusqu'à ce qu'ils me disent oui, bon, d'accord, ok. Et puis en fait, quand ils m'ont dit il n'y a pas de Père Noël, mais en fait c'est super Noël parce que c'est un moment où on se fait tous des cadeaux et toi aussi tu peux faire des cadeaux aux autres. Donc allez, on va essayer de choper un truc à offrir. Et je suis rentré de l'autre côté, quoi, du rituel, du côté de celui qui offre. Et du coup, la transition s'est faite hyper facilement. C'est resté chouette d'une autre façon.
Et est-ce que, en termes de faire croire à des choses ou quoi, t'as déjà été amené à parler de la mort à des jeunes enfants?
Je trouve que les enfants, enfin, les quelques fois où ça m'est arrivé, je trouve que j'ai pas le sentiment que c'était un sujet tabou. Je trouvais que ça s'est fait assez naturellement et j'ai pas eu le sentiment que c'était. Je pense qu'on se fait beaucoup plus de. On se crée beaucoup plus de problèmes en tant qu'adulte sur cette question que les enfants n'en ont eux.
Et ma fille qui devait avoir quand même 3 ans. Donc elle entendait parler de Lady Di, ensuite Lady Di, où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie, ben on l'a enterrée dans la terre, etc. Et puis quelques temps après, c'était quand je tire la chasse d'eau, quand je fais pipi, on tire et ça va où? Ben ça va sous la terre, ben dans la terre. Oh, Lady Di, elle est recouverte de pipi, quoi.
Toi, tu connais des gens qui sont morts?
Oui.
Et qu'est-ce que tu crois qu'ils deviennent, les gens, quand ils meurent?
Des squelettes. Oui, il y a une morte qui s'appelle Pascal, qui est la mère de mon papa.
Et quand elle est morte, tu sais ce qui s'est passé un petit peu?
Oui, elle s'est fait renverser par une voiture.
Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est devenue?
Un squelette.
Mais où vont les morts? Qu'est-ce qui se passe quand on est mort? On en va au ciel, dit la mère indigne. Au ciel, ok. Mais moi, je n'ai jamais vu partir au ciel. Ah ben oui, dit la mère indigne, on s'enfoncera un peu plus. Mais ça se passe la nuit. Bon, quelques temps après, j'arrive, un jour, ma fille est à la fenêtre. Alors, le lit arrivait juste à la fenêtre, elle était là. J'ai regardé et je n'ai pas vu les morts partir au ciel. Ah oui, mais c'est pas tout le temps qu'ils partent au ciel, hein. Tomber dessus, quoi. Qu'est-ce que je m'en suis voulu d'avoir raconté ça?
Mais
en fait, c'est parce que moi, la mort, je pouvais pas supporter d'en parler, donc je ne pouvais pas lui dire. C'était que mes parents me parlaient, me disaient, oui, nous, quand on est décédé, on voudrait être incinéré. Ça, je dis, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas. J'ai toujours. C'était pour moi, c'était trop dur. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai enjolivé ça pour ma fille, alors que qu'il n'y avait pas du tout de croyance en quoi que ce soit, en Dieu, ni en... Donc, voilà.
Mais c'est parce que j'entends pas mal de trucs en ce moment sur comment justement faire vivre les morts, et que c'était des questions que je ne m'étais pas du tout posées jusque maintenant, et en fait, je trouve ça quand même hyper important de se dire, pas juste, bon, bah, il est mort et terminé, et quand même, non, comment on les fait vivre dans nos histoires, dans notre vie, dans... Et qu'en fait, les morts, ils existent juste par le fait qu'on pense à eux. Enfin, et, ou qu'on en parle, ou qu'on raconte des histoires sur eux. Et en fait, je trouve que ça, c'est hyper important de se dire que les morts nous accompagnent d'une certaine manière dans nos vies. Quoi.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard, nous vivons sans gîte. Goulûment et vite, comme le moineau, haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables. Nous sommes des dieux.
Abolir la famille en 6 étapes.
M.E. O'Brien.
Si d'un côté la famille représente une bouée de sauvetage pour nombre de celles et ceux dont la vie sous le capital est un naufrage, d'un autre, elle rejette et contrecarre les aspirations d'un trop grand nombre d'entre nous.
Il nous faut trouver d'autres moyens d'organiser, au quotidien, le soin et l'attention que nous portons les uns envers les autres.
1. Mettre en place une cantine de lutte.
Pour abolir la famille, il n'est pas de meilleur déclencheur qu'une insurrection massive.
Rejoignez Contre-Sommet et camps anti-grands projets, barricades et places occupées, usines, ports et bâtiments récupérés.
Dans chacune de ces zones, libérez et afin d'étendre l'insurrection, générez des moyens de survie collective.
Celle-ci commence par l'existence d'une cantine de lutte. Créez-la.
2. Étendre la reproduction sociale insurrectionnelle.
Profitez du terrain gagné par l'insurrection pour poursuivre le processus d'abolition de la famille.
Approfondissez les pratiques partagées de soins mutuels.
Que l'un des objectifs de votre camp,
de votre territoire rebelle,
de votre ferme collective,
de votre comité logement local,
soit d'accueillir et de soutenir toujours plus de nouvelles personnes.
Créez des zones de sommeil auto-organisées pour soigner le rythme de chacune.
Organisez des gardes collectives afin de dégager du temps pour les parents en lutte.
Mettre en place des systèmes d'échange de seringues et des politiques de prévention des risques à destination des camarades qui prennent des drogues.
Offrez des soins médicaux et accompagnez ceux qui souffrent de maladies mentales et physiques chroniques.
3. Construire des communes.
À mesure que la production communiste investit les usines et les champs, l'abolition de la famille s'expérimente dans les nouvelles communes permanentes de reproduction sociale collective.
Chaque commune compte environ 200 personnes. la cantine de lutte, devenue permanente, fournit des repas à toutes les habitantes. À la tente des street medics succède un véritable centre de santé.
La place, où s'assemblaient autrefois les habitants en lutte, devient le lieu de leur auto-administration démocratique. Les désuets cercles de djembé et de didgeridoo laissent place à des espaces où l'on peut enregistrer de la musique et faire de l'art. De véritables crèches où les enfants apprennent et grandissent ensemble se substituent aux anciennes gardes collectives.
Si des regroupements de chambres privatives destinées à ceux et celles qui souhaitent des unités de type familial ou, par exemple, vivre avec leurs enfants sont toujours à disposition, la majeure partie de la vie se déroule désormais dans les espaces collectifs.
C'en est fini du règne des maisons, des bagnoles et de la consommation individuelle.
Sur cette base, l'humanité peut enfin collectivement s'attaquer au changement climatique.
4. Combattre le retour de la famille.
Défendez la commune. Il n'est pas de manière plus libre d'organiser la reproduction sociale.
Former de nouvelles alliances. Entre échappés de familles de tout type. Entre femmes libérées des relations insatisfaisantes ou abusives. Entre pauvres et personnes de couleur déjà habituées au réseau d'entraide communautaire. Entre personnes queer et trans exclues des familles traditionnelles.
Ceux qui tentent de retourner à la famille unité économique de vie sont des contre-révolutionnaires.
5. Élever les enfants de la commune.
Par la commune, offrir un monde meilleur aux enfants.
En tant que voisin et ami, dans un monde où la famille nucléaire ne dispose plus des vies des enfants, tout le monde est invité à intervenir créativement et collectivement en cas de relation parentale abusive.
La commune offre la possibilité à tout parent ou à tout enfant non dépendant de sa famille de s'extraire d'une dynamique dysfonctionnelle, sachant que pour tous, la commune pourvoit.
S'en définit des liens forgés et maintenus par la violence.
De nouveaux genres, de nouvelles manières d'être humains, inimaginables sous l'empire de la famille nucléaire deviennent possibles. Arrivé à ce point, vous avez réussi à abolir la famille.
Vous êtes parvenu à libérer l'amour queer et le soin féministe et avez jeté les bases de l'épanouissement humain.
6. Étendre les opportunités de survie choisie.
Si la contagion insurrectionnelle communisante globale rencontre une résistance trop forte, faites du mieux que vous pouvez, avec les options forcément imparfaites qui se tiennent à votre disposition.
Tentez de former vos propres plans d'habitation collective, d'élaborer des formations parentales singulières, viables dans ce monde-ci.
Combattez et détruisez les états suprémacistes blancs qui renforcent la violence familiale.
Défendez les maisons collectives, les lieux d'accueil et les rues populeuses aux prises avec le harcèlement policier.
Investissez-vous dans des projets qui permettent à chacune, inconditionnellement, de satisfaire ses besoins. Que ceux que vous aidez vous aiment ou vous détestent, qu'ils soient partisans ou non de la famille nucléaire, ne doit pas décider de votre action.
Rejoignez les mouvements de précaires, de chômeurs et de mal logés, afin d'étendre et de transformer les logements qui échappent au marché, d'augmenter les allocs, d'améliorer l'accès aux soins et à une éducation de qualité.
Soutenez toutes celles et ceux qui sont exclus des familles traditionnelles en les aidant à élever leurs enfants, à prendre soin des plus âgés et, plus généralement, prenez soin de celles et ceux qui vous aiment et que vous aimez.
Trouvez-vous,
aimez-vous.
Brasero, approchez-moi du micro.
Dans son lequel chapeau de l'eau. Bon, est-ce que quelqu'un veut parler de Noël alors?
Mais oui,
Mathieu, Mathieu, elle ne s'arrête jamais de parler, elle ne veut pas parler.
Mais c'est parce que ça me gêne.
Mais ça vous fait plaisir de fêter Noël en famille?
Bah oui et non.
Quoi, non?
Non, je rigole, je rigole.
La seule personne qui a dit vraiment oui, franchement, c'est la seule personne qui n'est pas en famille.
Bah si, elle est en famille, elle est avec nous. C'est la vie.
Parce que sa famille, elle ne fête pas Noël. Depuis qu'il a 13 ans.
Parce que ma famille, elle est en Floride.
Arrête.
Tu rejettes qui?
Moi, je pense que Noël, ben, parfois, c'est bien. Parfois, c'est pas bien. Parce que parfois, ça rappelle aux jeunes qui sont tout seuls. Pas bien.
Mais t'as des souvenirs de Noël, un peu?
Non. Bah si, si. Moi, j'ai fait Noël à plein d'endroits différents.
C'est quoi ton plus beau souvenir de Noël?
Quand Caïs m'avait offert un parfum la première fois. Non, c'est bon, c'est chiant. Non, je sais pas, de la nourriture. Moi, ce que j'aime bien, c'est la nourriture, la décoration. On rigole bien. On mange de bonnes choses. Et on s'offre des choses aussi.
Mais c'est quoi votre meilleur souvenir de Noël?
C'est Noël, c'est toujours...
Sympa.
Ouais, c'est,
c'était bien l'an dernier quand...
Mais c'est,
quand...
j'ai pas de... Ils se battent, enfin je sais pas, c'est Noël, il y a...
Ouais, il y a pas un souvenir qui dénote.
C'est plus agréable quand t'es avec les gens, quand t'as choisi les gens avec qui t'as envie d'être.
Ouais.
Mais sinon, c'est Noël. Enfin, je veux dire, c'est jamais surprenant, c'est jamais...
Ouais.
Y a, tu vois, c'est, j'ai pas le souvenir d'être sorti d'un Noël et de m'être dit putain, c'était trop génial, ou alors c'était horrible.
C'est-à-dire que là, on est en famille, t'as pas vraiment choisi quoi, donc c'est pas.
Bah si.
Enfin, parce qu'on a un peu choisi notre famille.
Bah, surtout, j'ai choisi de venir jouer. Si j'aimais pas ma famille, eh bien, j'aurais peut-être essayé de trouver une excuse pour partir ou faire, je sais pas.
Avec tes
regarde,
amis,
Théo, il s'est débrouillé pour venir avec nous parce qu'il avait pas envie de fêter Noël. Avec sa belle-mère.
Avec les amis. Ouais.
Et mais moi j'ai pas ce souci-là, alors c'est Noël quoi.
Coupé. Ça va être diffusé où, à quelle heure?
Ouais, c'est quoi comme radio?
C'est Canal Sud, 32.2.
Finalement.
Sur Brasero.
Non mais il a dit que nous quand on voit, quand on fait Noël, et ben on comment dire, on n'est pas dégoûté parce qu'on va voir des gens qu'on supporte pas et qu'il faut qu'on se tape tous les ans, une fois par an.
Tu vois, j'ai jamais eu le raciste à côté de moi.
Ouais, à table, le vieux tonton sous.
Le grand-père.
Pourquoi tu m'embêtes?
Non, j'ai pointé du doigt comme si c'était une table. Non, mais non.
On n'a pas le grand-père qui boit un peu trop, qui touche les fesses de sa fille. Tout ça.
On n'a pas ça, normalement.
On n'a pas.
Donc c'est cool. C'est pas influent pour les autres.
T'as qu'à dire, on a choisi notre famille.
Bah ouais. Mais non, mais parce que, genre, pour nous, Noël, c'est pas un truc chiant, tu vois, c'est un truc où on se réunit tous ensemble avec les gens qu'on aime, on va bien manger, on va rigoler et on va s'offrir des cadeaux.
Mais même quand j'allais à Paris avec tonton, Juliette et tout, bah c'était Noël, c'est même là, c'était pas. Tu vois, ça reste des gens de la famille, pour le coup, je les ai pas choisis, c'est la famille telle qu'elle est dans le sang, nan, nan.
Et nous non plus, tu nous as pas choisis.
Bah oui, mais non.
Un peu, enfin, un peu oui, plus, voilà. c'est...
Non, mais si, il est pas forcé, il est pas lié par le sang, un truc, tu vois, genre là, c'est...
Notre vierge,
c'est le cœur, enfin.
Pardon. À moi aussi, ok.
C'est un prétexte pour passer un bon moment, mais c'est pas nécessaire de tout faire pour essayer de passer un bon moment, en mode, il faut réunir toute la famille, qu'il n'y ait pas d'histoire, que tout le monde... Que Roger soit assis à côté d'un tel, nanana, je sais pas quoi, à 23h il faut ouvrir le champ. Enfin, tu vois, c'est. J'ai pas le genre de truc, la pression de Noël, tu vois, c'est on fait Noël quand on a envie de le faire pour passer un bon moment. C'est juste ça. Mais je pense que si Noël n'existerait pas, on se débrouillerait quand même pour passer ce genre de moment.
Mais tu serais pas dégoûté si on faisait pas Noël, par exemple?
Si, moi, si, de ouf. Moi, j'aime trop Noël.
Parce que la fois, tu as dit. Tu as dit que c'était une boutade le truc, à la fois il n'y a pas de foie gras, mais quand même, il y avait une petite déception.
Mais oui, parce que c'est le moment.
Avec des moules et tout, et c'était un peu, oh, mais c'est pas un vrai Noël. Donc, quand même, il y a des attentes vis-à-vis de Noël, c'est pas juste.
Mais parce que pour moi, Noël représente le moment où on va manger du délicieux foie gras. J'en mange une fois dans l'année, c'est à Noël. Et là, je me disais... Enfin, c'est ça, oui, c'est vrai qu'il y a des attentes.
Ouais, y a
c'est
un
pas
peu
des
clichés,
trucs de
quoi.
Ouf, c'est un truc en vrai...
Ouais, mais c'est pas si neutre que ça non plus.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'était quand même une bonne soirée. En plus, on m'en a ramené le lendemain, alors... Autant dire que...
Autant te dire...
Mais c'est vrai qu'on a des attentes un peu sur ce qu'on va manger.
Ouais, c'est juste
oui, bon,
ouais, c'est ça.
Ouais, t'es déçu, quoi.
Bah, tu sais. Mais tu sais, t'as des envies, tu te dis, ah, Noël, c'est. Ah, on va manger du foie gras, du saumon,
des crevettes,
des trucs comme
blanc.
Ça.
Blanc.
Moi, l'année passée, j'ai pas fait de canne. Genre, j'ai eu une indigestion alimentaire.
Ah merde.
Avec des huîtres.
Ah bah, ça c'est.
Oh, oui. Je suis resté 2 jours.
3 ans au chiot.
À dormir.
Théo, ça te dérangerait d'ouvrir la
fenêtre? C'est dur ça. Tu veux fumer?
Oui, s'il te plaît.
Donc, c'est pas bon pour la santé.
Mais moi aussi, je veux fumer.
Moi, j'ai envie de tout manger.
Ouais, bah moi,
j'ai... Mais ceci dit, je suis bien content de ne pas avoir le genre de Noël, tu sais, quand t'es au collège ou au lycée et que tes potes ils te racontent que c'est des trucs. Tu sais que c'est un impératif, enfin c'est une obligation de fêter Noël, tu vois. Et tu sais que ça va être relou, tu sais, enfin tu vois, genre, je suis bien content d'échapper à ça.
Oh, elle est bien cette photo.
Ouais, t'as raison.
Merci à vous d'attendre sur le quai. La fin d'année, c'est particulier. Vous êtes super, de garder le sourire. Quoi qu'il arrive, passez une bonne année. Merci, Omi.
C'était 22h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine, près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longeait la selle tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime, marchant à pas lents, à pied elle longeait la selle tout en chantonnant, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre. Charmant Noël, charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent, ces deux-là qui s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes au camp, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on en fait pas. Mais il est bien doux quand même. de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël.
C'était Brasero, Brasero, un Brasero de Noël. On fait un petit truc à la radio pour se réchauffer le cœur et les oreilles en attendant, ben en attendant Brasero rythme dans 15 jours et la semaine prochaine, hein, Brasero sur les mouvements contre la gâchette facile, contre les flics à la gâchette facile en Argentine, les violences policières, quand on les comme on les appelle, de ce côté de l'Atlantique. Et puis voilà, c'est le début de l'année qu'on vous la souhaite bonne. En tout cas, elle sera ce qu'on en fera. Et à très bientôt sur les ondes de Canal Sud, sur les podcasts, sur le site de Canal Sud ou ailleurs, peut-être même voir dans la vraie vie. Ciao.